Le journal Mimi Ngumba Mulongo. La coalition AMP Palou UDEMO adopte la structure du prochain gouvernement. La proposition serait sur la table du président de la République pour approbation avant la publication prévue la semaine prochaine. La RDC risque d'être écartée du processus de l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive. En 3 ans, aucun rapport sur la transparence dans ce secteur. Le président du comité consultatif de cette structure en RDC l'a révélé hier mardi à Kinshasa. Début des travaux de réfection du bloc pouvant accueillir des mineurs en état de détention à la prison de Kasapa à Lubumbashi. Un reportage à suivre dans la deuxième partie de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord ceci, avant de vous développer les titres, de nouveaux combats ont lieu depuis ce mercredi à 5h du matin dans la localité de Tamugenga, à une 30aine de kilomètres de Rutshuru au centre et de Kiwanja sur la route de Ishasha, dans les territoires de Rutshuru. Le colonel Kaimbi, commandant des opérations FRDC sur l'axe Rutshuru, qu'il a annoncé ce mercredi matin sur la RTNC locale, indique que les troupes de FRDC basées à Tamugenga ont été attaquées par le CNDP. Bertrand Ici, moi, porte-parole du CNDP, confirme la reprise de combat. Il ajoute que ce sont les FDLR qui avaient investi Tamugenga après que les troupes FRDC aient fait un semblant de retrait sur demande de la MONUC. Sur l'autre front, celui de Tongo, à 60 km nord-ouest de Goma, la MONUC a confirmé hier mardi le contrôle de cette localité par les FRDC. Selon le colonel Kaimbi, le FRDC y aurait perdu 3 militaires contre 13 combattants CNDP tués. Il ajoute que le CNDP a été contraint de se retiré sur la colline de Moulimbi à 6 km de Tongo. Par contre, pas d'autres détails sur le front de Nyanzali à 50 km à l'ouest de Rutshuru. Fini les négociations pour la formation du gouvernement. La coalition AMP Palou UDEMO a arrêté hier mardi à Kinshasa la clé de répartition de postes ministériels. Les propositions de la structure du gouvernement telles qu'adoptées par la coalition ont été ainsi transmises, selon des sources fiables de l'AMP, au chef de l'État pour approbation. Les mêmes sources renseignent que le gouvernement pourra être connu dès la semaine prochaine. Jeff Ngoy.
C'est dans l'enceinte de Prokoki au large du rond-point Sosimante dans la commune de la Gombe où s'est défini l'avenir du prochain gouvernement. Il s'agit des bureaux du secrétaire exécutif de l'AMP. Sous l'ombrage des arbres, quelques personnes appartenant au mouvement associatif affilié à l'AMP attendent d'être reçues. Les politiciens mangent, nous aussi sommes venus manger, déclarent certaines femmes. Quelques politiciens arrivent en jeep fumé et repartent. Soudain, sous couvert de l'anonymat, un haut cadre de l'AMP nous confie « Tout est bien fini ». Pendant 2 jours de négociations, AMP Palou et UDEMO avons convenu pour cette répartition des postes ministériels. J'amène les recommandations de la coalition auprès du chef de l'État. Un coup d'œil sur le document suffit pour nous rendre compte de la configuration du prochain gouvernement. 5 scénarios sont proposés à Kabila. Du 1er au 5e scénario, le nombre des postes au gouvernement varie entre 43 et 45, avec un gros morceau pour le PPRD, dont 13 postes, suivi du Palou avec 3, de l'UDEMO avec 2 et du MSR, ainsi que des autres partis et des indépendants. La structure du gouvernement ne va pas tellement changer, nous déclare encore notre source.
Toujours à Kinshasa, près d'une centaine de députés nationaux de la province orientale, du Nord et du Sud Kivu s'insurgent contre la nomination d'Adolphe Mouzitou au poste de Premier ministre. Dans une déclaration faite hier mardi au Palais du Peuple, ces députés indiquent que l'ancien ministre du Budget ne présente pas le profil permettant de rechercher des solutions définitives à la guerre à l'est du pays. Jean-Baudouin Idambitou, porte-parole de ce groupe des députés.
Ayant suivi avec une attention particulière le message du chef de l'État, spécialement en rapport avec les priorités assignées au nouveau gouvernement, notamment la recherche de solutions définitives à la guerre qui fait rage dans nos provinces respectives, ayant constaté que le profil du Premier ministre ne correspond pas au contexte du moment, annonçons à l'opinion tant nationale qu'internationale que nous nous réservons le droit d'user de nos prérogatives constitutionnelles le moment venu.
Quand vous dites que vous allez user de vos prérogatives, vous faites allusion à quoi?
Nous faisons allusion à beaucoup de mécanismes au niveau de l'Assemblée nationale, que le gouvernement doit présenter son programme, qu'il faudra que nous l'apprécions.
Déclaration condamnée par les députés du Palou qui disent craindre la résurgence sur la scène politique du clivage Est-Ouest. Ils soulignent que le premier ministre Adolphe Mouzitou est désigné non seulement parce qu'il est du Palou, mais aussi suite à ses compétences. Zénon Moukouakani, président du groupe parlementaire au Palou à l'Assemblée nationale, prône ici la participation de tous dans la résolution des conflits.
Pour que ce qu'ils appellent profil, si les gens veulent déterrer les clivages Est-Ouest, ça c'est vraiment malheureux et je crois que nous n'allons pas nous inscrire dans ces chemins-là. Parce que n'importe quel premier ministre, s'il n'a pas l'appui de la population et plus particulièrement des dirigeants ressortissants de ce côté-là, il ne peut pas, il ne fera pas un miracle. Le contraire, maintenant, nous devons nous mettre tous derrière le gouvernement pour que cette guerre d'usure, cette guerre malheureuse qu'on nous a imposée soit définitivement terminée.
C'est un dossier signé Marie-Chantal Lumba. Plus de 50 000 personnes ont fui les violents combats qui opposent depuis septembre l'armée congolaise à la rébellion ougandaise en Ituri dans la province orientale. Selon l'AFP, c'est ce qu'a indiqué hier mardi le porte-parole du HCR, Ron Redmond, à Genève. Toujours selon cette dépêche, les autorités du district de l'Ituri affirment que les corps des 100 civils ont été jetés dans une rivière, a poursuivi le porte-parole, tandis que 80 enfants sont portés disparus et leurs parents craignent qu'ils n'aient été enlevé par la LRA, connue pour ses recrutements forcés d'enfants. À noter aussi que la MONUC a récemment ouvert une enquête sur les violations de droits de l'homme par les rebelles de la LRA qui s'en prennent de plus en plus aux civils dans cette région. Concernant toujours la province orientale, la société civile de l'Ituri dénonce la reprise des hostilités dans la collectivité de Walendubindi. Dans un mémorandum publié hier mardi à Bunia, cette société civile appelle notamment les miliciens, je cite, à arrêter immédiatement et sans condition les attaques dans l'intérêt supérieur de la population. Elle recommande par ailleurs au gouvernement de décréter un cessez-le-feu toujours dans l'intérêt de la population. En outre, la société civile de l'Ituri demande à la MONUC de faciliter les pourparlers entre le gouvernement et les miliciens. Elle invite également la population locale à se désolidariser de groupes armés. La RDC court le risque d'être écartée du processus de l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive ITIE. Au motif, le pays n'a fourni aucun rapport sur la transparence dans l'industrie extractive en 3 ans. Cette alarme a été sonnée par le président du comité consultatif de cette structure en RDC hier mardi, au cours d'une journée porte ouverte de la société civile organisée par l'ONG Senadep. Plusieurs recommandations ont été formulées par une vingtaine des membres de la société civile afin de Paris au pire, Nazer Koko.
8 mars 2010, c'est l'échéance fixée par le Conseil international de l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive, ITIE, pour évaluer les niveaux d'exécution des principes et critères pays par pays. Pour la RDC, à ce jour, soit plus de 3 ans et demi depuis son adhésion, aucun rapport n'a été rédigé sur l'industrie extractive et pour cause, une législation inadaptée qui bloque son fonctionnement et ne crée pas des structures déconcentrées pour les provinces. Parmi les autres écueils, les difficultés financières. L'argent de fonctionnement de ces structures n'ayant jamais été débloqué par le gouvernement et même la Banque mondiale traîne les pieds. Ce qui fait dire à plusieurs ONG de la société civile qu'il y a absence d'une vraie volonté politique pour faire de la transparence dans ce secteur une préoccupation de bonne gouvernance. La journée de porte ouverte a débouché sur un certain nombre de recommandations. Un projet d'ordonnance sur l'ITIE en RDC a été amendé et sera soumis à la présidence de la République alors qu'un appel à la mobilisation de tous les partenaires ainsi que des moyens financiers a été lancé. Si rien n'est fait, dans les 14 prochains mois, la RDC sera écartée du processus. Une perspective bien sombre pour l'État congolais et ses entreprises qui ne pourront plus accéder au financement de certaines banques internationales.
Début hier dans la capitale congolaise d'un atelier régional sur l'impact économique et social des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle, quelques dizaines d'experts venus du Congo-Brazzaville, du Tchad, du Bénin, du Cameroun, du Burundi et de la RDC y prennent part. En effet, la contrefaçon est un vrai fléau pour ce pays, a dit dans son discours inaugural le ministre congolais de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises. L'objectif de ce séminaire est de mettre en place les stratégies au niveau régional pour lutter contre la contrefaçon. Écoutons à ce sujet les explications du ministre congolais de l'Industrie, Simon Bosso, au micro de Nasser Koko.
En ce qui concerne les produits, surtout dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'alimentation, dans les domaines des pièces de rechange et dans les domaines de la création intellectuelle, surtout de la musique, nous avons des produits qui portent des marques qui ne sont pas les leurs. Tout ceci constitue un danger tel que, puisque ce problème se passe à travers les frontières, on ne peut pas le résoudre au sein d'un seul pays. C'est pour ça que nous travaillons dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dont nous sommes membres, qu'ensemble, dans le cadre d'une des actions concertées, en commençant par la sous-région, c'est parce que c'est par les frontières que se passe la circulation des biens qui font l'objet de contrefaçons, que nous puissions trouver des politiques concertées pour pouvoir combattre ce fléau.
Les soins de santé primaires, maintenant plus que jamais, c'est le titre du rapport de l'OMS sur la santé dans le monde, édition 2008. Ce rapport, rendu public hier, analyse la façon dont les soins de santé primaires peuvent répondre aux défis sanitaires d'un monde en évolution rapide. Selon ce rapport, de manière générale, les conditions de santé se sont améliorées dans le monde les 30 dernières années. Quant à la RDC, a noté les rédacteurs de ce rapport, il est difficile d'avoir une population en bonne santé sans stabilité politique. Wim van Lerberg, rédacteur du rapport, joint depuis Genève par René Capita.
En Afrique subsaharienne, en général, là, les choses ne se sont pas améliorées. Elles ne se sont pas vraiment empirées. Du point de vue des indicateurs de mortalité et de survie, il est clair, même l'histoire récente du Congo le montre, que sans stabilité politique, il est difficile d'avoir une population en bonne santé. Notons aussi que sans effort pour les systèmes de santé, il est difficile de stabiliser la situation politique aussi. Je crois qu'on peut dire en général que ces 30 dernières années pour la RDC n'ont pas été bonne du point de vue santé. Mais d'un autre côté, il faut dire aussi qu'il y a des endroits, il y a des zones de santé où, en dépit des circonstances extrêmement défavorables, parmi les plus défavorables au monde, je crois, il y a quand même des choses qui ont continué à marcher. C'est un message général du rapport mondial, c'est qu'un des chantiers importants, c'est de réinvestir dans l'autorité de gestion du secteur santé.
Wim van Lerberg, rédacteur du rapport, sera l'invité de Radio Okapi tout à l'heure à 8h30, heure du Bas-Congo.
Okapi. Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Jacques-Yves Molima, 28 jours après le déclenchement de la grève des infirmiers et autres agents administratifs, le constat est amer dans la zone des santé de Mbanzangungu.
C'est le Robert Lukebana, président des forces vives de Mbanzangungu. On compte 36 morts pour le mois de septembre. Dans une déclaration faite hier devant les différents syndicats des infirmiers, il demande à ces derniers l'organisation d'un service minimum et à l'exécutif provincial le paiement d'une prime aux infirmiers qui seront d'accord pour ce service minimum. Robert Lukebana, président des forces vives de Mbanzangungu, joint par Vicky Odia.
Des morts qui ont été rendus publiques au mois de septembre, soit 36 morts enregistrés des suites de cette grève. Et nous ne pouvons pas continuer à tolérer de voir nos frères et sœurs mourir par manque d'une assistance adéquate dans les centres de santé officiels. Et donc nous qualifions cela de non-assistance des personnes en danger. Malgré que la grève soit nationale, mais aux problèmes locaux, il faut des solutions locales. Mais quand on flèche, là où il y a la vie humaine, étant donné que la vie est sacrée, je crois que ce n'est pas le syndicalisme que nous sommes en train de faire, mais c'est le sadisme plutôt. C'est comme ça que nous avons lancé un cri de détresse à l'attention des gouvernants, et nous avons demandé au gouverneur des provinces de pouvoir payer le système prime compensatoire en faveur de ceux qui peuvent accepter les services minimums.
Début lundi dernier, à la prison de Kasapa de Lubumbashi, des travaux de réfection du bloc pouvant accueillir les mineurs en état de détention.
Pour le directeur de la prison de Kasapa, il est temps de séparer les détenus et prévenus adultes d'avec les mineurs. Question de respecter la loi. Les travaux sont effectués avec le financement de l'UNICEF. Paulin Munanga fait un tour ce mardi à la prison de la Kasapa. Il nous présente les conditions actuelles de détention des mineurs dans cette prison.
Ils sont au nombre de 14, les enfants qui sont à la prison centrale de la Kasapa à Lubumbashi. Tous sont des prévenus. La plupart d'entre eux ont l'âge qui varie entre 15 et 17 ans. Ils ont été conduits à la prison pour diverses infractions, notamment coups et blessures, destruction méchante, vol. Certains viennent de passer 2 à 3 ans sans jugement. Ces mineurs logent dans des différents pavillons avec les détenus adultes. Le bloc qui est en réfection pour accueillir ces mineurs servait au logement des officiers et des détenus disciplinés. Il a une capacité d'accueil de 20 places. On y trouve des douches et des toilettes. Le directeur de la prison rappelle que pendant la Deuxième République, les mineurs qui commettaient des infractions étaient conduits à l'école de gardiennage et d'encadrement pour enfants. Elle est située juste à côté de la prison Kasapa, mais elle est en ruine. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
À l'étranger, les États-Unis ont accusé hier le président zimbabwéen Robert Mugabe d'avoir violé l'accord de partage du pouvoir, un accord conclu avec son rival Morgan Tsvangirai en attribuant unilatéralement de postes clés du futur gouvernement à son parti. D'après l'agence France Presse qui donne l'information, le porte-parole du département d'État a aussi souhaité que la mise en œuvre de cet accord soit remise sur les rails. Sport à présent, accusé d'être responsable de l'élimination de la RDC lors de la campagne du Mondial et de la CAN 2010, Patrice Neveu dit assumer cet échec sur le plan technique. C'était au cours d'un point de presse tenu hier au siège de la Fédération congolaise de football. Voilà tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.